Chapitre 21. Instruction pratique et typique. Un homme tué dans les champs. Quand on trouvera sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne pour la posséder, un homme tué, étendu dans les champs, sans qu'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges sortiront et mesureront jusqu'aux villes qui sont autour de l'homme tué. Et quand ils auront établi quelle est la ville la plus rapprochée de l'homme tué, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'a pas servi et qui n'a pas tiré au joug, et les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans une vallée où coule un torrent qui ne tarit pas, dans laquelle on ne travaille ni ne sème. Et là, dans la vallée, ils briseront la nuque à la génisse. Et les sacrificateurs, fils de Lévi, s'approcheront, car ce sont eux que l'Éternel, ton Dieu, a choisis pour faire son service et pour bénir au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui prononceront sur tout différent et sur toute blessure. Et tous les anciens de cette ville qui sont les plus rapprochés de l'homme tué laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on aura brisé la nuque dans la vallée. Et ils prendront la parole et diront « Nos mains n'ont pas versé ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple Israël que tu as racheté, et n'impute pas à ton peuple Israël le sang innocent. » Et le sang leur sera pardonné. Et toi, tu ôteras le sang innocent du milieu de toi, quand tu auras fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Versets 1 à 9. Un crime est commis. Un homme est trouvé tué dans le pays, mais personne ne sait par qui, ni même s'il s'agit d'un meurtre volontaire ou involontaire. Tout est mystère, mais le fait est qu'un crime a été commis. C'est une tâche sur le pays de l'Éternel. Que faut-il faire? La gloire de Dieu et la pureté de son pays doivent être maintenues. Dieu connaît tout ce qui en est. Lui seul peut agir, et il le fait d'une manière pleine de précieux enseignements. En premier lieu, les anciens et les juges paraissent sur la scène. Les exigences de la vérité et de la justice doivent être respectées. La justice et le jugement doivent être parfaitement maintenus. C'est là une vérité capitale qui se retrouve dans toute la parole de Dieu. Il faut que le péché soit jugé avant que le pécheur puisse être justifié. Avant que la voix céleste de la grâce puisse se faire entendre, il faut que la justice soit satisfaite, les droits de Dieu maintenus et son nom glorifié. Quelle glorieuse vérité pour ceux qui ont pris leur vraie place comme pécheurs. Par l'œuvre de Christ à la croix, Dieu a été glorifié quant à la question du péché, et par conséquent il peut, en toute justice, pardonner au pécheur et le justifier. Mais nous devons nous borner à l'interprétation du passage qui est placé devant nous. Celui-ci nous donne un aperçu de l'avenir d'Israël. La vérité fondamentale de l'expiation y est présentée, mais en rapport avec Israël. La mort de Christ y est évoquée sous deux aspects. Comme l'expression de la culpabilité de l'homme et comme le déploiement de la grâce de Dieu. Le premier a pour type l'homme trouvé tué dans le champ, le second, la génisse égorgée dans la vallée, où l'on ne travaille ni ne sème. Rien ne sauve sinon le sang d'une victime sans tache, le sang de celui qui fut mis à mort hors de la cité coupable de Jérusalem. Dès que les exigences de la justice sont satisfaites par la mort de la victime, un nouvel élément est introduit. Les sacrificateurs, fils de Lévi, s'approcheront. En type, c'est la grâce agissant sur le terrain de la justice. Les sacrificateurs sont les canaux de la grâce, tout comme les juges sont les gardiens de la justice. Ce n'était qu'après que le sang ait été répandu que les ministres de la grâce pouvaient se présenter. C'est ainsi que Dieu agira bientôt envers Israël. C'est à ce peuple que s'applique en premier lieu toutes les institutions que nous trouvons dans ce merveilleux livre du Deutéronome. Et tous les anciens de cette ville qui sont les plus rapprochés de l'homme tué laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on aura brisé la nuque dans la vallée. Je laverai mes mains dans l'innocence et je ferai le tour de ton autel, ô Éternel. Psaume 26, verset 6. Le seul endroit pour se laver les mains est celui où le sang de l'expiation a pour toujours effacé notre culpabilité. Et ils prendront la parole et diront « Nos mains n'ont pas versé ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple Israël que tu as racheté, et n'impute pas à ton peuple Israël le sang innocent. La vallée dans laquelle on ne travaille ni ne sème représente bien ce que fut ce monde en général, et le pays d'Israël en particulier, pour notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. C'était assurément pour lui une vallée aride, un lieu d'humiliation, une terre déserte et altérée. Mais, gloire à son nom, par sa mort dans cette vallée, il a procuré pour cette terre et pour le pays d'Israël une riche moisson de bénédictions. Les versets 10 à 17 traitent des relations d'Israël avec l'Éternel, nous ne nous y arrêterons pas ici. Un fils indocile et rebelle. Dans la suite du chapitre, nous avons encore Israël, mais considéré sous un autre point de vue. C'est la génération apostate pour laquelle il n'y a point de pardon. Si un homme a un fils indocile et rebelle qui n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, et qu'il l'ait châtié et qu'il ne les ait pas écoutés, alors son père et sa mère le prendront et l'amèneront aux anciens de sa ville, à la porte de son lieu. Et ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils, il est indocile et rebelle, il n'écoute pas notre voix, il est débauché et ivrogne. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres, et il mourra, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Et tout Israël l'entendra et craindra. Versets 18 à 21. Remarquons le grand contraste qui existe entre l'action solennelle de la loi dans le cas de l'enfant rebelle et la parabole du fils prodigue en Luc 15. Le passage du Deutéronome ne mentionne pas de repentance. Les parents sont appelés à prendre leur fils et à l'amener pour être lapidé. En Luc 15, sous la grâce, le père court au-devant du fils prodigue repentant. Il se jette à son cou et l'embrasse, le revêt de la plus belle robe, lui met un anneau à la main et des sandales aux pieds. Il fait tuer le veau gras, le fait asseoir à table avec lui, et la maison retentit de la joie qui remplit son propre cœur d'avoir retrouvé le pauvre enfant égaré. Quel contraste frappant! En Deutéronome 21, nous voyons la main de Dieu en juste gouvernement exécutant le jugement sur le rebelle. En Luc 15, nous voyons le cœur de Dieu débordant de tendresse envers le pauvre pécheur repentant et lui donnant l'assurance de la joie qu'il éprouve lui-même en retrouvant celui qui était perdu. Maudit est quiconque est pendu au bois. Arrêtons-nous encore un instant sur le dernier verset de notre chapitre. Celui qui est pendu est malédiction de Dieu, et tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Verset 23. L'apôtre Paul y fait allusion au chapitre 3 des Galates. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Verset 13. Cette citation a une grande valeur, non seulement parce qu'elle nous présente la grâce précieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, devenu lui-même malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse parvenir jusqu'à nous, pauvres pécheurs d'entre les nations, mais encore parce qu'il nous montre le Saint-Esprit mettant son sceau sur les écrits de Moïse en général et sur le chapitre 21 du Deutéronome en particulier.